la semaine passée, pour ceux qui ont écouté le message de 15 minutes, j'avais à cœur d'apporter vraiment ce message que beaucoup de paroles qui venaient de Billy Graham, mais bien entendu qui venaient de la Bible, parce que lui, il citait la Bible sans arrêter. Message de 15 minutes puissant que cet homme a porté pendant 60 ans sur toute la planète et qui a touché, transformé et sauvé des milliers, des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de vies. Un message simple. Un message de Jésus. Jésus, la seule solution, comme on vient de prier, le seul sauveur, le seul Seigneur et le besoin de tout être humain de Jésus-Christ. Et ce matin, j'avais un message semblable. Ce matin, j'avais à cœur qu'on prie, qu'on prêche plutôt notre credo, ce qu'on croit. Ce qu'on croit, nous, tous les chrétiens qui avaient été touchés, qui avons été touchés par Jésus-Christ. Et je vous dirais même beaucoup de ceux qui n'ont pas encore été touchés par Jésus-Christ, mais qui font partie d'une religion chrétienne, une des différentes confessions chrétiennes sur la terre. J'avais à cœur qu'on rehausse alors que la semaine prochaine, c'est la grande réouverture, comme j'ai écrit dans ma lettre ce matin, la réouverture. Je ne sais pas ça fait combien de fois qu'on réouvre l'église. Mais là, c'est pour de bon. Amen. Oui, c'est bon d'entendre des amen un matin. C'était bon d'entendre des applaudissements quand vous avez applaudi le Seigneur ce matin. C'est bon d'entendre vos réactions, vos cris de joie. C'est bon. On a hâte de tout le monde être là ensemble, remplir le lieu ici, puis célébrer. Et à partir de la semaine prochaine, c'est possible. Fait qu'on est content. Mais on est dans notre série « Différents, mais humains » qu'on a introduit il y a une couple de semaines. Et ce matin, j'avais à cœur de rester à l'intérieur de l'Église avec ce même thème-là. On a trop, durant les deux dernières années, on a trop mis nos opinions de l'avant. On a fait de nos opinions la sainte parole de Dieu, alors que c'était juste nos opinions. On a utilisé la parole pour prouver nos opinions, et pourtant la parole de Dieu n'a pas été donnée à l'être humain ou à l'Église pour prouver nos opinions. Ça, c'est facile à faire. Tu as une opinion, puis tu cherches un verset qui va fitter avec ton opinion. Tu le prends un peu hors contexte, puis tu prouves ton affaire. La parole de Dieu nous a été donnée pour transformer notre intelligence, transformer nos pensées, transformer qui on est. C'est pour ça que la parole, et c'est comme ça qu'elle doit être utilisée. On met le meter à zéro, on ouvre la parole, puis on dit, Seigneur, refais mon cerveau. Remets-moi en ligne avec la vérité, avec toi. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. Presque tout ce que je vais vous parler ce matin, c'est juste la parole. Parce que la parole, elle est puissante pour transformer notre intelligence, pour transformer notre façon de penser et de là, transformer nos vies. Parce que ça découle de tout ça. Dans Romains 12, 2, ça dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est ça, c'est à ça qu'a sert la parole. Et j'avais à cœur que ce matin, on amène dans la parole ce que tout chrétien croit, afin de nous unir à nouveau autour de ce qu'on croit, autour de notre foi. On va se rappeler ce matin ce qui nous unit, tous les chrétiens de la terre. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message ce matin « Différents, mais chrétiens ». Pendant des centaines, parce qu'on est différents des chrétiens, on est vraiment différents. On le vit encore plus pendant la pandémie, mais on est chrétiens. Et c'est quoi qui nous unit? Pourquoi qu'on peut dire qu'on est chrétiens? C'est parce qu'on croit tous la même chose. Et vous allez voir qu'au courant de ce message-là, vous allez voir que c'est flyé ce qu'on croit. Certains d'entre vous vont dire, « Ben non, c'est pas flyé, c'est juste normal de croire ça. » Mais pour le vrai, pour des personnes humaines, pour les gens du monde, c'est flyé. C'est fou de croire ce qu'on croit. Et pour le croire, c'est parce que ça nous a été révélé en quelque part. Dieu, l'Esprit Saint, nous a révélé ce qu'on croit. Et même si ça a l'air flyé, pour nous, ça devient la vérité, ça devient évident, ça devient le normal. Parce que Dieu l'a mis dans nos cœurs. Pendant longtemps, il y a beaucoup d'églises plus traditionnelles qui ont fait qu'à chaque dimanche, ils proclamaient ce credo-là qu'on croit. Hein? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est ce que je me souviens de quand j'étais petit puis j'allais à messe. Mais c'est pas juste dans l'Église catholique, hein? C'est dans l'Église protestante aussi traditionnelle qui récite cela à tous les dimanches. C'est intéressant. Ça nous unit, ce credo-là, qui vient des années 300, qui a été rédigé dans les années 300. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On va ouvrir la parole et on va regarder qu'est-ce qui nous unit, les chrétiens, même si on est si différents, pourquoi sommes-nous tous chrétiens? Premièrement, on croit qu'il y a un seul Dieu. Dans Ésaïe, Dieu dit, « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez que je suis. » Okay, c'est Dieu qui parle. « Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun n'existera. » Ça, on croit tous ça. Il y a un seul Dieu. C'est le Dieu de la Bible, il n'y en a pas d'autre. C'est celui qui a dit ces paroles-là quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Jésus, lui, dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Pierre, dans sa lettre aux Corinthiens, dit « En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, okay? Soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. » Nous croyons, les chrétiens, ce qui nous unit, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, ce qui nous unit aussi, c'est les caractéristiques de notre Dieu. Premièrement, Dieu connaît tout. Il est omniscient. Dans une lettre de Jean, Jean dit, « Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Dans un livre de Job, le seul qui parlait comme du monde dans le livre de Job, à part Dieu, c'était Élihu. Il dit, « Prête l'oreille à ses paroles. Reste tranquille et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les contrôle? Sais-tu comment il fait briller l'éclair? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. » Dieu connaît tout. Il est omniscient et même notre cœur, nos pensées. Hein? Votre Père, dans Matthieu, ça dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Dieu connaît toutes nos pensées et il sait même ce qu'on a besoin avant qu'on y demande. Notre Dieu, ce qui nous unit les chrétiens, c'est qu'on sait qu'il connaît tout. Une autre chose, c'est qu'on sait que Dieu est tout-puissant. Il est omnipotent. Dans l'Apocalypse 19, 6, ça dit, « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, a établi son règne. » Dans la Bible, 74 fois, Dieu est référé comme le Dieu tout-puissant. Et ce passage qu'on vient de lire dans Apocalypse, ça nous montre qu'à la fin des temps, Quand tout va être terminé, ça va être encore vrai. Il va être encore le Dieu Tout-Puissant. C'est ce Dieu qui est notre Dieu. C'est ce Dieu qui nous unit, les chrétiens du monde entier, malgré nos différences. Ceux qui accusaient Jésus lui demandent, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. » Amen. Jésus aussi dit que le Père est Tout-Puissant. Ensuite, nous croyons que Dieu est omniprésent, ça veut dire que Dieu est partout. Le prophète Jérémie, quelques centaines avant Jésus-Christ, a écrit de la part de Dieu, « Suis-je un Dieu? » Donc, c'est Dieu qui parle à travers son prophète. « Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches? » déclare l'Éternel. « Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi je ne le voie? » déclare l'Éternel. « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? » déclare l'Éternel. Il y a un psaume qui reflète tellement que Dieu est partout. Ça dit dans le psaume 139, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Il est partout, notre Dieu. On croit aussi que notre Dieu est souverain, tous les chrétiens de la terre. Ça veut dire ça, qu'il règne au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité sur la terre. Dans le psaume 115:3, ça dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Il fait tout ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai que c'est le monde sur la terre qui vont décider du sort de l'humanité. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu va décider, Dieu a déjà décidé du sort de l'humanité. Le sort de l'humanité, c'est d'être sauvé. Et ceux qui ne le seront pas, c'est ceux qui vont avoir refusé le salut. Mais le cœur de Dieu amène l'humanité là où lui, il veut. Dans 1 Timothée 6, 14 à 15, Paul écrit à son disciple, qui est maintenant un leader, « Gardez le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. » Dieu règne sur tous les rois de la terre, sur tous les leaders de la terre, sur tous les chefs religieux. C'est Dieu qui règne. Et c'est Dieu qui décide, comme il dit dans sa parole si bien, de mettre des autorités en place, pas que c'est lui qui vote, mais quand il est tanné d'une autorité, quand il ne fait pas son affaire, et c'est arrivé très, très, très souvent dans l'histoire, c'est lui qui l'enlève. Il le retire, puis il n'essaye un autre. Amen. C'est lui qui règne. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre, que Dieu dit dans Ésaïe 46, 9 à 10. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Dieu est souverain et il va faire tout ce qu'il veut. Amen. Nous croyons aussi que notre Dieu est saint, qu'il est parfait. Et c'est intéressant que Pierre se sert de cette sainteté-là, l'apôtre Pierre, pour nous encourager à viser cette sainteté-là. Dans 1 Pierre 1,15, il dit, « Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Il nous invite à se laisser sanctifier par le seul qui peut nous sanctifier, celui qui est saint, Dieu. Ça aussi, ça nous unit, les chrétiens du monde entier, de croire que notre Dieu est saint. Nous croyons que notre Dieu est juste aussi. Dans le psaume 19, 9 et 10, « Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. » Nous croyons que notre Dieu est juste. Des fois, on ne le comprend pas. Ça, c'est vrai. Je dirais que souvent, on ne le comprend pas. Mais même si on ne le comprend pas, on y fait confiance parce qu'on sait qu'il est bon et on sait qu'il est juste. Amen. Dieu est amour. C'est ce que nous croyons tous, les chrétiens. Dans une lettre de Jean, Jean dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si tu connais Dieu, tu te transformes toi-même en amour. Des fois, on se disqualifie, on se trouve pas bon à aimer. C'est un processus. Dieu nous transforme. Mais étant donné que Dieu est amour, si on est connecté avec Dieu, il nous transforme en son amour. Et on devient l'amour de Dieu sur la terre. C'est ce que nous croyons, tous les chrétiens, que Dieu est amour. Dieu est vérité. Il n'y a pas d'autre vérité qu'en Dieu. C'est le seul qui est la vérité. Et quand quelqu'un veut connaître la vérité, qu'il soit un ange ou un être humain, il regarde vers la vérité qui est Dieu. Jésus lui dit, dans Jean 14, 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et Paul dit dans sa lettre aux Romains, « Reconnaissons que Dieu est vrai. » C'est intéressant ici. « Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. » Comme cela est écrit. Dieu nous traite de menteurs ce matin. On doit avouer qu'on n'est pas toujours dans la vérité. On doit avouer que même des fois, on n'est pas dans la vérité et on se pense dans la vérité, mais on ne l'est pas. C'est dans ce sens-là aussi que veut dire tout homme menteur. Le seul qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Reconnaissons que Dieu est vrai, tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi, tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Nous croyons, les chrétiens de la terre entière et de toute dénomination et confession, Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Dans Ésaïe, ça dit, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout. Tout seul, j'ai déployé le ciel par moi-même. » J'ai disposé la terre. Dieu n'a pas eu besoin de personne. Il ne s'est pas fait aider par personne pour créer la création. Il est le seul et unique créateur de l'univers. Et dans Jean 1, ça dit, « Tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole, c'est-à-dire sans Jésus, c'est-à-dire sans Dieu. » Amen. Nous croyons que Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de commencement. Je ne suis pas en train de dire, nous comprenons que Dieu est éternel. Pour le vrai, la plupart du temps, quand on se met à y penser, on trouve, non, c'est trop grand comme pensée pour pouvoir vraiment comprendre que Dieu est éternel, qu'il n'y a jamais eu de commencement. Qui a créé Dieu? Comment ça a commencé tout ça? On ne le sait pas, on ne le comprend pas, mais on le sait que Dieu est éternel. Dans le psaume 90:2, « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et ça, on est unis dans cette pensée-là, les chrétiens de toute la terre. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Dieu est le même quand il a créé Adam qu'aujourd'hui, quand il nous a créés chacun de nous dans notre époque. Dans une lettre de Jacques, le frère de Jésus, ça dit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Et ça, c'est immuable, hein? Ni changement, ni l'ombre d'une variation. Dieu n'a jamais changé. Depuis le début, il a toujours été le même. Des fois, on lit la Bible, on dit, il me semble que ce n'est pas le même Dieu. Ça a toujours été le même Dieu. Il faut les lire. Il faut lire la Bible avec ces lunettes-là. Et les différentes interventions de Dieu, il faut les voir avec ces lunettes-là. Dieu ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas, dit Dieu par le prophète Malachie. Maintenant, on a parlé de Dieu, on rentre dans une autre croyance commune qu'on a tous les chrétiens de la terre. C'est au sujet du Fils de Dieu. Cela fait aussi des millions de millions de millions de chrétiens sur la terre, des personnes unies dans la même foi. Amen. Historiquement, tous les historiens sérieux s'entendent tous, même les athées, même ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'il y a eu un personnage dans l'histoire du monde qui s'appelle Jésus et qui est venu sur la terre. Il n'y a pas personne qui peut nier ça, parce qu'il y a beaucoup plus de manuscrits écrits sur lui que sur n'importe quel personnage historique de l'histoire du monde. Donc, tout historien sérieux sait que Jésus a existé. Mais par contre, nous, les chrétiens, on sait quelque chose de particulier. Nous croyons quelque chose de particulier sur ce personnage-là. Premièrement, nous savons que Jésus est Dieu lui-même. Il n'est pas juste le Fils de Dieu dans son rôle de Fils, mais il est Dieu lui-même. Dans l'Évangile de Jean, c'est comme ça que ça commence. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dans les derniers 2000 ans, il y a eu beaucoup de sectes qui se sont formées qui disaient que Jésus n'était pas Dieu. Et c'est devenu des sectes. Et si ça fait longtemps qu'ils existent, ils ont fini par s'éteindre. Il y a une religion aujourd'hui qui est populaire, les Témoins de Jéhovah, mais qui ne sont pas des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Pour eux, Jésus est un ange, c'est un ange, Michel-Ange qui s'est fait homme, et non Dieu lui-même qui s'est fait homme. C'est ce qui les différencie, qui fait qu'ils ne font pas partie du monde chrétien. Mais tout le monde chrétien, peu importe les détails qu'ils croient, nous croyons que Jésus est Dieu. Amen. Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu », quand il a eu touché les mains. Au début, il ne croyait pas. Quand il a touché, il n'a pas juste dit « Mon Seigneur ». Il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui a répondu, « Parce que tu m'as vu et tu as cru, tu crois. Heureux ceux qui, comme Nathalie, n'ont pas vu mais ont cru. » Qui ont cru quoi? Que Jésus était le Seigneur et Dieu. Amen. Heureux ceux qui l'ont cru sans m'avoir vu. Dans Colossiens, en effet, c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans la lettre aux Philippiens, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Son égalité avec Dieu, parce que Jésus est Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, ça dit de plus au sujet des anges, donc c'est un petit texte qui parle des anges. Il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, donc à Jésus, ton trône, ô Dieu, c'est Dieu qui parle à son Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Amen. Nous croyons aussi des affaires flyées comme que Jésus est né d'une vierge, qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec aucun homme. Pour le vrai, ça prend une révélation pour croire ça, non? Mais ça nous unit tous les chrétiens de la terre. Nous croyons tous que le Saint-Esprit est venu sur Marie et qui a permis que Dieu s'est fait homme et qui est venu vivre parmi nous. Dans Ésaïe 7, 14, ça dit « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. » Donc, lorsqu'on annonçait le Messie, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus, Dieu avec nous. Jésus est Dieu. Amen. Il est né d'une vierge. Ça dit dans Matthieu, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Le nom de la Vierge, dans Luc, ça dit, était Marie. C'est ce qu'on croit, c'est ce qui nous unit, tous les chrétiens du monde. On croit aussi que Jésus-Christ s'est fait homme. Il y a eu beaucoup de sectes qui sont sorties du christianisme dans l'histoire, qui disaient que Jésus n'était pas un homme, qu'il n'était qu'un esprit. Mais nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus est un homme. Il s'est fait homme. Dans Philippiens, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. C'était le plan de Dieu, d'être un homme pour pouvoir payer nos péchés à notre place, afin qu'on soit sauvé. Nous croyons cela. On croit qu'il était entièrement homme et qu'il était entièrement Dieu. C'est-à-dire, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ entièrement homme et entièrement Dieu. Et dans une lettre aux Colossiens, Paul y dit, « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. » Bien entendu, ça avait déjà commencé dans le temps de Paul. Il y avait plein de personnes qui disaient toutes sortes de faussetés sur Jésus. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. » Il dit « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus est entièrement homme, entièrement Dieu. Ça nous unit, les chrétiens du monde. On croit aussi que Jésus est parfait et sans péché. Et vous avez tous entendu parler des Romains et de toutes sortes de choses qui disent que finalement Dieu couchait avec Marie-Madeleine, puis tati, puis tata, hein, toutes sortes de choses qu'ils disaient. Un être humain qui n'a pas la révélation de Christ, donc qui ne devient pas chrétien, ne peut pas croire qu'un homme peut être parfait. Hein? Comment ça peut arriver? Jésus, nous croyons qu'il était parfait et sans péché. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est ce que nous croyons. Et l'apôtre Pierre dit, « Christ a aussi souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris et que vous avez été sauvés. Amen. Nous croyons que Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père. Ni la religion, ni tous les efforts humains, ni le fait d'essayer d'être fin puis bon, ni la méditation, ni le yoga, ni tout ce que les religions orientales essayent de faire pour s'élever à la hauteur de Dieu, rien de ça ne mène au Père. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Ça dit, Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Dans Matthieu, mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Les seuls qui peuvent être en contact avec Dieu le Père, c'est ceux à qui le Fils veut bien révéler le Père. Personne ne vient à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Amen. On s'en va vers le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous unit, tous les chrétiens de la terre. Dieu est esprit. Dans Jean, ça dit « Dieu est esprit ». Et c'est pour ça qu'il faut que celui, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous croyons que Dieu est esprit. Et nous croyons aussi que le Saint-Esprit est non seulement une personne, mais qu'il est Dieu. Et maintes fois, hein, on retrouve cette phrase-là ou quelque chose de similaire par Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un échange, qu'il y a une relation entre nous et le Saint-Esprit. Comme les apôtres avaient une relation avec Jésus homme, nous avons une relation aussi tangible avec Dieu le Saint-Esprit. Lorsque un homme a voulu cacher quelque chose dans l'Église primitive, Ananias, qui cachait, qui faisait à croire qu'il avait donné tout son argent à l'Église, alors que Pierre il a dit, tu n'avais pas besoin de compter des menteries, tu n'étais pas obligé de donner ton argent à l'Église. Il n'y a personne qui t'a demandé ça, mais lui, pour paraître un grand chrétien, il avait dit ça. Pierre lui répond, pourquoi Satan a-t-il mis dans ton cœur, a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? C'est à une personne qui a menti, c'est à Dieu qui a menti. Parce qu'un peu plus loin, quelques versets plus loin, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc Dieu nous révèle des choses par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que lorsque on prie, qu'on prend des temps avec Dieu et qu'on ressent que Dieu nous parle, qu'il nous révèle des choses ou qu'on lit la parole, puis soudainement, la lumière s'allume ou qu'il nous donne une direction dans notre vie, c'est une personne qui nous donne ça, c'est la personne du Saint-Esprit. Ça dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2, 10, 11, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Saint-Esprit, car l'Esprit examine tout. » Même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est beau tout ça. Mais la Bible, qu'est-ce qui nous unit au niveau de la Bible, les chrétiens? Parce que là, depuis tantôt, je vous dis des choses qui nous unissent. Puis je me fie sur la Bible pour ça, un livre. Il y a bien du monde qui dit ouais, « c'est un livre, ça a été écrit par les hommes. » Mais qu'est-ce qu'on croit, nous, les chrétiens, sur la Bible? Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Ça nous unit aussi. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, ainsi que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Et Pierre dit, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On parle de la parole écrite ici. C'est toujours le mot « logos » en grec qui est écrit. C'est la parole écrite, nous croyons que c'est la parole de Dieu. Et nous croyons aussi que dans sa version originale, en grec ou en hébreu, l'Ancien Testament, que ça ne contient pas d'erreur. Dans Jean 17, 17, Jésus dit « Consacre-les par ta vérité et ta parole, logos, la Bible écrite, est la vérité. » C'est ce que Jésus dit de la parole. La Bible est la vérité. La Bible n'a jamais été changée. Jésus répond aux pharisiens en leur disant, « N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole, logos, la Bible écrite de Dieu a été adressée, et il dit, « Et si l'Écriture ne peut pas être annulée, alors comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré, et envoyé dans le monde, tu blasphèmes. » On accusait Jésus de blasphème. Jésus s'est toujours servi de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, écrit des centaines d'années avant lui, pour prouver ses points. Parce que Dieu protège la Bible. Et ça aussi, c'est ce qui nous unit les chrétiens, de croire que la Bible n'a jamais changé. Nous croyons aussi que tous les hommes sont des pécheurs. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par le péché, nous croyons que ça a entraîné la mort de l'humanité. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et nous croyons aussi, les chrétiens, que ce péché nous sépare de Dieu. Dans Ésaïe, ça dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Nous croyons que tous les hommes, donc, ont besoin d'être sauvés. Mais nous croyons aussi, tous les chrétiens, que Jésus est mort pour nos péchés. Dans 1 Jean 2:2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça aussi, ça nous unit tous les chrétiens. Parce que non seulement on sait que tout homme a péché, mais on sait qu'il y a un sauveur. Qui est venu pas juste pour une petite élite, mais qui est venu pour tous les hommes qui veulent accepter son pardon, son sacrifice sur la croix. L'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus, dit Paul dans Corinthiens, que si un seul est mort pour nous, tous sont morts. Sa mort, à Jésus, a payé pour nos péchés. Il a payé à notre place pour nous redonner la vie. Christ a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Et finalement, dans Matthieu, ça dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Cette révélation-là du salut en Jésus-Christ, nous y croyons tous, les chrétiens de la terre entière. Nous croyons aussi que Jésus est ressuscité physiquement. Dans Jean, ça dit « Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. Jésus annonçait sa résurrection. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole de Jésus, que Jésus avait dite. Jésus est ressuscité pour nous donner l'espoir, pour nous donner la vie, car nous sommes ressuscités avec lui. Pour nous sauver, nous donner la vie éternelle, mais non seulement ça, pour rétablir la communion avec lui, pour que nous ne soyons plus séparés de lui. Amen. Le salut, nous croyons qu'il est un don gratuit de Dieu. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On ne peut pas gagner notre salut. C'est gratuit. Dieu nous l'a donné gratuitement. On croit aussi, par contre, que ceux qui le rejettent, OK, vont aller dans l'absence de Dieu éternel qu'on appelle l'enfer. Et ça, ce n'est pas populaire aujourd'hui. Pourtant, ça nous unit, tous les chrétiens de la terre, de croire que l'enfer est réel. Dans Matthieu 25, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, etc. » Un peu plus loin, « Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Donc, les chrétiens de toute la terre croient en l'enfer, même si on n'aime pas ça. On sait que c'est vrai. On sait que ceux qui croient, par contre, vont hériter l'éternité avec Dieu. Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra pas. Et il dit à ses disciples, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus reviendra. On croit tous que Jésus va revenir un jour. Une chance. Des fois, il y a bien du monde qui prie, reviens tout de suite, ça va tellement mal. Mais il y a encore du monde à sauver. La Bible nous dit que Dieu est patient parce qu'il veut sauver le plus de monde possible. Dans Actes 1, 11, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous? » C'est des anges qui regardaient aux apôtres. Qui parlait aux apôtres, qui regardaient vers le ciel, et Jésus venait de disparaître dans les nuées. Il dit, « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Nous croyons, tous les chrétiens du monde, que Jésus va revenir. Amen. Les chrétiens vont ressusciter eux aussi. C'est une foi que nous avons, une espérance que nous avons, une unité que nous avons les uns avec les autres. « Voici, je vous dis un mystère, » dit Paul. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. » Nous croyons que nous ressusciterons pour la vie éternelle, tous les chrétiens du monde. Nous savons qu'il y aura un jugement final. C'est mentionné à plusieurs endroits. Dans Hébreux, ça dit, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. » Ce qui nous unit les chrétiens du monde, on sait qu'il n'y a pas de réincarnation. C'est notre vie qui est notre opportunité de croire en Dieu et d'accepter son salut. Après ça, c'est le jugement. Finalement, pour son Église, nous savons que Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. 2 Pierre 3,13. Mais nous, nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et pendant que nos musiciens s'en viennent, je vous lis le dernier passage que j'avais pour vous ce matin. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » C'est dans l'Apocalypse 21, 1 à 5. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. C'est l'Église, ça. J'entendis une forte voix venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Amen. On est très différents les uns des autres, le monde chrétien. On est différents de par nos cultures chrétiennes, mais on est différents dans la même culture, dans la même dénomination, par notre background, par notre façon de penser, par les influences qu'il y a autour de nous, par la façon dont on réagit aux influences autour de nous, par tellement de choses. Mais on est unis en une seule foi, en un seul esprit, par un seul baptême. On est unis autour de Jésus-Christ. Par tout ce qu'on vient de mentionner, c'est notre foi commune. C'est 97% de ce qui est important de croire. La seule chose qui divise les dénominations, c'est peut-être un 3% de petites croyances différentes. Mais la majorité de ce qu'on a mentionné aujourd'hui, tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui, c'est le 97% qui nous unit au monde chrétien. Christ nous veut ensemble. Le Papa du ciel veut ses enfants unis ensemble. Et je prie qu'en post-pandémie, on soit unis plus que jamais parce qu'on a une terre à conquérir. Amen. Seigneur Jésus, que ton esprit d'unité vienne sur nous. Et quand je dis ce matin que ton règne vienne, Seigneur, je te demande que cet esprit qui nous unit, pour lequel Jésus a prié avant d'être arrêté la même journée, vienne vraiment nous unir autour de cette foi commune, cette croyance commune, cette connaissance commune, cette conviction commune qu'on a tous les chrétiens de la terre. Au nom de Jésus.